Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Le Seigneur vous bénisse et vous accorde son amour pour chaque instant. Nous allons parler ce matin de l'onction et ce qu'elle procure dans notre vie personnelle. En Jean, chapitre 2, à partir du verset 18. En Jean 2, à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un an dans vos Bibles, c'est souvent marqué « Antéchrist », je peux vous dire que c'est une mauvaise traduction. Il a été décidé, il y a déjà quelques siècles, qu'on traduirait par antéchrist. Je vous donne tout de suite la différence qu'il y a entre antéchrist et antichrist. Anté veut dire qu'il vient avant. On a par exemple le mot antérieur, antécédent. Hein? Alors que anti veut dire contre. Et dans le texte grec, il est mentionné antichristos. Donc, vous pouvez corriger dans vos Bibles. D'ailleurs, j'ai reçu cette bonne nouvelle il y a environ 2 mois, où la Maison de la Bible, qui traduit donc second, va maintenant mettre antichrist. Parce que c'est déjà une interprétation anté. Ça veut dire qu'on croit que Jésus va venir avant la grande tribulation. C'est en tout cas ce à quoi je crois, mais on ne peut pas, dans la Bible, déjà mettre une interprétation. Il faut qu'on mette exactement ce que la Bible dit. Donc, anti, ça veut dire contre Christ. Je reviendrai sur la question dans quelques instants. L'antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, alléluia, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de l'onction que vous avez reçue de... au sujet de ceux qui vous égarent, excusez-moi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné. Nous avons donc ici la question relative à l'onction et ce qu'elle procure dans notre personne. La première des choses que nous avons ici, c'est que l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire il y a le baptême, du Saint-Esprit, et après ce baptême du Saint-Esprit, il s'agit de conserver l'onction que nous avons reçue de la part de Dieu, et comme il est écrit dans Tite au chapitre 3 et le verset 5, « Renouvelle en toi l'esprit ». Et on réalise que cette onction, elle peut à certains moments se perdre. Parce que nous avons Éphésiens 4:30 qui nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour la vie éternelle ». Et c'est facile d'attrister le Saint-Esprit. C'est la colombe de Dieu. Et une colombe, c'est très fragile. Si nous faisons un geste un peu trop brutal à côté d'une colombe, elle s'en va. Le Saint-Esprit, c'est pareil. S'il y a un péché, une mauvaise pensée, une convoitise, et puis que nous ne savons pas nous repentir, alors nous attristons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne voudrait pas que nous vivions ces choses-là. Il voudrait que nous soyons sans cesse sous son onction et que tout en nous révèle la personne de Jésus-Christ. Alors, la première chose que nous réalisons, c'est qu'il y a un antichrist qui va venir, mais il y a des antichrists, c'est-à-dire de ceux qui sont contre Christ. Et ça nous amène à dire que l'onction va nous conduire au discernement des esprits. En grec, ce n'est pas marqué au singulier, c'est noté les dons de discernement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous avons besoin de divers discernements. Il y a les discernements par rapport, je cite comme ça brièvement, ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe dans la politique, ce qui se passe dans la philosophie, ce qui se passe dans les enseignements scientifiques, ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. Et il y a des discernements différents qui touchent au monde des esprits face auxquels nous sommes confrontés. Bien sûr, il y a trois sortes d'esprits qui travaillent sur la terre. Il y a évidemment le Saint-Esprit, il ne va pas se contrôler lui-même. Mais ce que le Saint-Esprit fera au travers de l'un des dons de discernement du Saint-Esprit, c'est quand une prophétie est donnée, si elle n'est pas de Dieu, ou si elle n'est pas inspirée de Dieu, le Saint-Esprit va révéler si ça vient de la chair ou si ça vient vraiment de l'Esprit-Saint. Deuxièmement, il y a les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Troisièmement, il y a l'esprit de l'homme. Nous avons un esprit et il se trouve que cet esprit, lorsque nous sommes non convertis et non fonctionnels, à moins que les gens trafiquent avec l'occultisme et se mettent à faire de la magie, de la sorcellerie et tout ce qu'il peut y avoir dans le monde satanique où ils vont être en contact avec des puissances démoniaques. Dans ce cas, alors leur esprit est en fonction, mais pour le mal. Alors qu'après notre conversion à Jésus-Christ, notre esprit devient fonctionnel et permet au Saint-Esprit de nous communiquer quelle est la pensée profonde de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons parfaitement éclairés au sujet de ce qui se passe dans notre monde. Je vous cite quelques cas pour vous montrer où se situe l'Antichrist déjà aujourd'hui et le travail qu'il accomplit. Tout à l'heure, le pasteur vient de citer les 13, est-ce qu'on appelle des communautés ou des loges, voilà, des loges maçonniques. Eh bien, vous devez savoir que où les francs-maçons se trouvent, il y a beaucoup de démons qui appuient leur travail. Parce qu'ils sont, en général, très en relation avec l'orientalisme. C'est très mélangé, en particulier avec l'hindouisme. Alors, j'ai prié un jour pour un qui était un grand chef, je ne sais plus le grade qu'il avait, mais en plus c'était de taille un grand homme, et il avait une très très grande responsabilité chez les francs-maçons, et il s'est converti au Seigneur. Moi j'ai dû chasser plusieurs démons chez lui. Eh bien, Dieu soit loué, il y a eu la victoire. Mais on se rend compte que c'est un monde contre lequel nous devons intervenir dans le monde de la prière. Parce qu'ils ont un pouvoir qui touche à la politique, qui touche aux finances, et de plus en plus, ils mettent leur grappin sur l'ensemble de la société. Même parmi les présidents africains, la majorité font partie de la franc-maçonnerie. Et c'est là qu'il y a un grand problème. Par contre, il y a celui du Bénin, président de la République du Bénin, il est dans les assemblées de Dieu, il est pentecôtiste et baptisé d'esprit. Celui de la Zambie, il est aussi converti au Seigneur. Et il y en a encore un autre, je ne sais plus lequel. Ah, monsieur Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, il a fait un pas vers le Seigneur. C'est merveilleux. Dieu soit loué. On aimerait en Europe qu'il y ait exactement la même situation. Mais prions et le Seigneur des miracles est encore là. Alléluia. L'Antichrist, je vous cite un cas pour vous montrer comment il fonctionne. Vers l'an 163 avant Jésus-Christ, il y avait un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane. Et lui, il a présenté une lait à l'intérieur du temple juif à Jérusalem en sacrifice. Et les sacrificateurs ont tenté de lui résister. Vous allez trouver ces enseignements dans le livre des Maccabées. On ne peut pas dire que ça soit un livre qui mériterait, ce qu'on appelle un livre canonique, qui mériterait de faire partie de la Bible, mais pour les catholiques qui l'ont maintenu, en tout cas historiquement, ça nous parle de la période entre la fin du deuxième livre des Chroniques, c'est ce deuxième livre-là, dans la Tanakh. La Tanakh, c'est l'Ancien Testament en hébreu, où la parole, la dernière parole que le peuple juif lit, c'est « Montons à Jérusalem ». Et nous voyons qu'il y a un appel à la dernière parole de l'Ancien Testament au peuple juif à remonter à Jérusalem. Dans nos Bibles, c'est Malachie, mais la période est la même, c'est-à-dire 432 avant Jésus-Christ. Et jusqu'à l'arrivée de Jésus, on n'a plus rien du tout. Et c'est dans cette période-là qu'il y a eu la naissance des pharisiens, environ 150 avant Jésus-Christ, et qui, eux, ont voulu travailler au milieu d'Israël pour ramener la parole de Dieu. Et c'est là que les Maccabées étaient justement en fonction, et qu'ils ont voulu résister à Antiochus, Antiochus Épiphane, qui était donc un roi de la descendance des quatre généraux grecs, qui après Alexandre le Grand s'était divisé l'Empire grec. Il était un des descendants du côté de la Syrie. Et ce Antiochus Épiphane était véritablement un antichrist parce qu'il est allé dans le temple de Dieu présenter en sacrifice une lait et à Jupiter. Alors on réalise qu'il y a des gens qui travaillent contre Dieu. Mais aujourd'hui, le diable s'est fait beaucoup plus subtil. Un des exemples que nous avons dans nos pays respectifs, c'est l'interdiction de parler de Jésus à l'intérieur des écoles. Dans toutes les formations en relation avec le système médical, avec le système social, généralement, on n'a pas l'autorisation de parler de Jésus-Christ. Par contre, quand l'islam arrive, tout le monde est prêt à ouvrir la porte. On se rend compte qu'il y a, parce que je crois qu'il faut le déclarer clairement, l'islam n'est pas inspiré du Saint-Esprit. Je sais que s'il y avait un islamiste ici, qu'il avait un pistolet, je serais immédiatement mort en déclarant une chose comme celle-ci. Mais c'est la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le Coran. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ. C'est une personne, c'est notre Seigneur, c'est notre roi de gloire. Et tout ce qui n'est pas en accord avec Jésus-Christ tombe sous le coup de l'Antichrist. Nous avons eu Hitler qui a manifesté un esprit antichrist comme personne d'autre. Il prétendait être chrétien. Quel menteur! Puisqu'il a eu l'audace de tuer, maintenant on a des chiffres encore plus précis qu'il y a une cinquantaine d'années, et probablement près de 7 millions de juifs en sont morts dans les fours crématoires. Mais ce qu'on ne dit souvent pas, c'est que les tziganes en ont eu 500 000 qui ont aussi été mis dans les fours crématoires. Donc vous voyez un nombre de morts absolument considérable, et tout cela parce que l'esprit de l'Antichrist a agi. Il voulait détruire les élus de Dieu. Israël, c'est le peuple élu de Dieu, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit d'accord ou non, c'est le peuple élu de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont élus. Mais ça veut dire qu'au moment où ils se tournent vers le Seigneur, à cause de leur élection, Dieu se révèle à eux. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, l'Antichrist, il a pénétré partout. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, dans la médecine, une pénétration des œuvres de l'Antichrist. On permet certaines pratiques comme l'homéopathie. Je peux vous dire que l'homéopathie, en France, la majorité des chrétiens sont pas au clair au sujet de l'homéopathie. Elle est dangereuse parce que l'homéopathie a pour but de combattre le mal par le mal, alors que la Bible nous dit tu combattras le mal par le bien. Hein? Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce qu'elle est exactement, je suis navré, je le sais parfaitement, mais on n'a pas suffisamment de temps avec ce que j'ai à vous dire ce matin. Et on le trouve avec l'acupuncture aussi dans la médecine, qui a une origine chinoise. Même s'il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu au cours des siècles, on réalise qu'elle est devenue quelque chose de plus en plus qui a pénétré. Il y a la sophrologie qui pénètre à l'intérieur de la médecine, et puis on arrive à des femmes enceintes auxquelles on enseigne l'hypnosophrologie, c'est-à-dire où elles doivent s'hypnotiser elles-mêmes pour avoir moins de douleur au moment de la naissance. Alors évidemment, il y a toujours un argument très fort qu'on me renvoie en me disant « Mais toi, tu es un homme, tu ne sais pas ce que c'est que de mettre un enfant au monde. » Ça, je suis d'accord. Mais 3 sur 4, j'étais présent. J'ai vu les douleurs que ça représentait pour mon épouse et je priais pour elle. Là, avec l'assurance que Dieu allait agir. Je l'ai entouré, j'ai partagé sa souffrance. Alors, si Dieu a permis, et je vous renvoie à Genèse 3 et les versets 16 et 17, où il est dit que la femme devrait souffrir au moment de l'enfantement. Moi, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Mais les hommes essayent de parvenir à effacer la volonté de Dieu au travers de choses qui ne sont pas selon son cœur. Et l'hypnosophrologie est un système hypnotique qui est donc diabolique. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites au sein de la médecine et du système médical. Il y a aussi dans le domaine social des pénétrations de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. J'ai pas non plus beaucoup de temps pour vous donner plus de détails, mais sachons que l'Antichrist, il œuvre déjà. Et quand je vois à Zurich, nous avons au mois de juillet, un rassemblement des jeunes, ils sont en général en relation avec les musiques Dernier Cri, le rock, le... je ne sais plus les noms, moi, etc. Oh, il y a plus que ça, il y a pire que ça, il y a pire que le rap. Hein. Vous voyez, il y a 1 million de jeunes, hein, ils étaient en tout cas 1 million l'année dernière, mais quand on voit à la télévision comment ils se conduisent, on se dit que l'Antichrist viendra. Cette jeunesse-là, elle va marcher avec l'Antichrist sans aucune résistance. Ils se mettent des cornes de diable sur la tête, les filles sont en déshabillé, presque comme au Jardin d'Éden, et je dis presque parce qu'elles se sont quand même couvertes un petit peu. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui dépassent des réalités et qui sont l'action de l'Antichrist au sein de l'humanité. Et ces choses-là, nous allons les voir augmenter. C'est pourquoi Dieu veut nous donner le discernement. Les démons ont pénétré dans notre société un peu partout. La dernière que nous venons d'avoir en Suisse, dans les églises protestantes, c'est que les synodes réformés se sont mis les uns après les autres dans les cantons suisses à accepter qu'un pasteur puisse être homosexuel, qu'il vive avec un autre et qu'on les marie. Nous ne pouvons admettre cela. Et il y a des collègues pasteurs qui sont convertis au Seigneur et baptisés de l'Esprit, ils souffrent et ils pleurent devant le trône de Dieu. Parce qu'ils disent, Seigneur, où va cette Église? Où la conduit-on? Et quand quelqu'un résiste, vous connaissez peut-être le pasteur Philippe Descorvet, eh bien, qui était le remplaçant de Maurice Ray à la Ligue pour la lecture de la Bible. Son fils à Philippe Descorvet, Jean, il est en train de faire un doctorat en théologie, un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il m'a dit, je ne sais pas si je pourrais rester dans cette église. Je ne sais pas. Parce que nous avons parlé clairement au sein du synode pour dire, c'est pas biblique. Mais tout le monde a passé outre. parce qu'il faut adapter la Bible à notre temps moderne. Et là, c'est du travail de l'Antichrist. La Bible ne changera pas. C'est l'homme qui doit changer. Mais ce n'est pas la Bible qui doit changer pour s'adapter à la société. C'est la société qui doit s'adapter à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous donne en tout cas la grâce d'être plein de sa présence et de son onction pour vivre véritablement ce que Dieu a préparé. Alors l'Antichrist, sa définition précise, vous l'avez dans Apocalypse au chapitre 13 et les versets 1 à 10. C'est la bête qui monte de la mer. Et puis à partir du verset 11, vous avez la bête qui monte de la terre. La différence entre les deux. Au chapitre 17, vous aurez une mention qui va vous aider à comprendre. Quand il est parlé de la mer, le Seigneur précise qu'il s'agit de la mer des peuples. Alors ainsi, la bête qui monte de la mer, entre parenthèses, des peuples, ça c'est l'Antichrist. Il sort du milieu des peuples. Donc Dieu ne dit pas qu'il va sortir du peuple juif. Il va sortir du milieu des peuples. Et ainsi, je le crois personnellement, je ne voudrais pas que ça soit mal compris parce que notre pays ne fait pas partie de l'Union européenne, mais l'Antichrist sortira de l'Union européenne. Quant au faux prophète, verset 11, la bête qui monte de la terre, le faux prophète, il devra être juif. Pour que l'alliance dont Daniel parle au chapitre 9 soit faite avec Israël et que Israël reçoive cet homme, il faut qu'il soit juif. Sinon, ils l'accepteront pas. Ils le prendront d'abord pour un prophète, ensuite ils vont discerner que c'est un faux prophète, ils vont lui résister. Et c'est là qu'il y aura des difficultés énormes pour eux et que se manifestera finalement la fin de la grande Babylone. Babel signifie confusion. Et on entre petit à petit dans ce système où il y a de la confusion partout, où certains se disent, mais pourquoi on touche à ça? Ça n'a rien à voir avec ce qui est réaliste, avec ce qui est bon, avec ce qui est vrai, avec ce qui est utile pour l'humanité. Puis alors, d'un autre côté, nous avons l'humanisme qui prend une place comme jamais il a pris. Et on peut approuver ce que l'humanisme fait, parce qu'ils ont de bonnes idées. Venir au secours des enfants, à moins qu'on s'appelle Arche de Zoé, mais il y a ceux qui veulent venir au secours des veuves, de ceux qui sont dans la pauvreté, etc. Il y a de bonnes idées derrière l'humanisme. Mais Jésus-Christ n'est plus prêché. Et c'est là le problème. Nous devons encore envoyer des missionnaires. Et nous devons avoir sur notre cœur que les missionnaires soient envoyés. Parce que moi qui vais fréquemment en Afrique, je viens d'y descendre ma 39e fois, eh bien je peux vous dire que ce dont ils ont le plus besoin, c'est l'enseignement de la parole. Mais ils ont aussi besoin d'un système qui va les aider sur le plan social, ça c'est sûr. Parce qu'ils sont dans une extrême pauvreté. Ils ont besoin de l'aide du Seigneur. L'Antichrist, il viendra, l'Antichrist. Mais selon, en tout cas que je le crois, parce que moi je suis pré-millénariste, je crois que selon les Écritures, et en particulier selon 2 Thessaloniciens au chapitre 2, il est dit que celui qui le retient, quand celui qui le retient aura disparu, le est un autre en grec, et le veut dire le Saint-Esprit, quand celui qui retient l'Antichrist aura disparu. Alors, l'Église sera enlevée par le Saint-Esprit dans la présence du Seigneur Jésus, et c'est à ce moment-là que le diable pourra se manifester, parce qu'il n'y aura plus de frein. L'Église de Jésus, aujourd'hui sur la terre, est un frein à l'expression du diable. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il aimerait mettre la sixième vitesse, parce que moi j'ai 6 vitesses à ma voiture, il aimerait mettre la sixième vitesse, mais... il ne peut pas parce que l'Église est là, elle est un frein à son expression. Mais quand l'Église aura été enlevée, il n'y aura plus de frein. Alors il pourra faire ce qu'il veut. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, il sera parfaitement manifesté. Mais nous devons savoir que l'onction que nous avons reçue nous permet de dire, Seigneur, dans quel temps vivons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? Et la mondialisation, on peut avoir les positions de celui qui est très virulent là en France, contre la mondialisation, je comprends, mais vous verrez, elle aura lieu. On ne prend pas les contre, c'est pas possible. Ça va se faire, parce que les sociétés deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes, jusqu'à ce que tout craque. Et c'est ça le problème, c'est qu'un jour ça va craquer. Vous avez vu le dollar, à quoi il en est? Il est très bas maintenant. Et si ça continuait, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce qui m'étonne, c'est que le dollar baisse, mais pas l'essence. C'est vraiment regrettable. Ça veut dire qu'on est dans une société où mammon domine, et ce qu'on veut, c'est des bénéfices, toujours des bénéfices, toujours plus de bénéfices, en avoir toujours plus. Vous verrez que Dieu va dire, maintenant, ça suffit, et il va y avoir une mise au point parmi l'humanité. Alors, bien sûr, ce n'est pas prophétiquement quelque chose de très agréable de se dire peut-être qu'un jour, nous allons être en difficulté ou au chômage, mais, frères et sœurs, nous devons nous attendre à ce que Dieu ne dise pas « Amen » à un système qui s'oppose à lui. À un moment donné, il va dire « Ça suffit ». Et il mettra fin à tout ce système. L'onction de l'Esprit nous a été donnée pour que nous discernions où se situe déjà l'Esprit de l'Antichrist et comment il va agir sur la surface de la terre. La deuxième chose que j'aimerais souligner ici, c'est la question de l'onction qui nous donne la vérité, qui nous conduit dans la vérité. Vous vous souvenez que Ponce Pilate a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus ne lui a rien répondu du tout. Pourquoi? C'est parce que si Ponce Pilate avait été un homme de réflexion, point de vue spirituel, il aurait compris que la vérité était devant lui. Elle était là, représentée en personne. Et il aurait pu dire, parle-moi, je veux recevoir ce qui est en toi. Mais il était bien trop endurci pour que ça puisse se produire. Et c'est ainsi que... Il a posé la question, il n'a jamais reçu de réponse. Jésus n'avait pas besoin de parler, il était là. Alléluia. Et nous réalisons que la vérité, c'est une personne. Il faut que nous soyons au clair, nous les chrétiens. La vérité ne nous appartient pas au point de vue ecclésiastique. Vous avez remarqué que l'Église catholique romaine, aujourd'hui, elle repose tout sur l'Église. L'Église a décidé, l'Église pense, l'Église. Mais ce n'est pas l'Église qui doit penser, c'est son chef, c'est Jésus. Et le vrai chef de l'Église ne s'appelle pas Benoît XVI, il s'appelle Jésus-Christ. Et moi je me réjouis de ce que c'est Jésus qui est le chef de l'Église, et vous? Alléluia! Et que ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme, il a tous ses défauts. Jésus, il n'en a point. Alléluia. Et il nous communique la vérité avec un grand V. Alléluia. Et nous la recevons. La vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Parce que lui, comme il est écrit ici, en Dieu, il ne peut pas y avoir de mensonge. C'est impossible que Dieu mente. Parce que tout en lui est vérité, tout en lui est expression de vérité, tout en lui est communication de vérité. Par conséquent, ça peut nous faire comprendre qu'être à l'écoute de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Parce qu'il va nous conduire dans la vérité. Dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus nous montre que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alors, je comprends les questions de certains qui m'ont été posées, qui disaient, mais vous les pentecôtistes, vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous devriez être parfaitement unis, et c'est là qu'il y a le plus de division. Eh bien, je me suis humilié. J'y suis pour rien d'ailleurs, hein, mais j'ai dit à ces gens, oui, je m'humilie devant vous, de ce que vous dites est vrai, mais sachez une chose. C'est que partout où l'homme se trouve, il amène des difficultés avec lui. Un pasteur m'a dit en France, tu sais mon frère, dans l'église, il y a beaucoup de problèmes. Je dis, arrête, tu me dis rien de plus. Parce que si j'ai des paroles de connaissance, puis que c'est en relation avec ce que tu vas me dire, après, je n'ose plus du tout les donner. Alors, arrête. Mais je lui ai simplement répondu, si tu veux une église sans problème, alors il faut que tu aies seulement des chaises. Vous êtes d'accord? Parce qu'à partir du moment où j'arrive, je parle vraiment de moi, au moment où j'arrive avec mes problèmes, si j'en ai. Par conséquent, ce n'est pas autrement que ce qu'a dit le pasteur tout à l'heure, c'est que je ne dois pas regarder à moi-même, mais regarder l'autre, non pas pour le juger, mais pour l'aimer. Parce que si je me mets à juger l'autre, je ne lui aide pas à sortir de ses problèmes. Et l'autre pourrait me juger moi aussi. Alors dans ce cas, on se méfie les uns des autres au lieu de s'aimer. Et c'est dommage, parce que le Seigneur voudrait que cet amour se répande avec force à l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 13, le verset 33 ? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia ! Amen. Alors, l'onction du Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Mais il y a des églises qui pensent, nous sommes la vérité. Et du côté américain, c'est très fort, c'est my church, hein, mon église, my ministry, mon ministère. J'ai dû leur dire, mais je suis navré, moi, c'est vrai que j'ai un ministère, il est clair pour moi, mais ce n'est pas le mien. C'est Jésus qui m'a fait la grâce de le servir. C'est tout autre chose. Ça a un autre sens. Et puis mon église. Moi j'ai dit, mes pauvres frères, si c'est mon église, j'ai alors à la plaindre. Pourquoi? Ben parce qu'elle va avoir mes défauts. Et non, merci Seigneur, c'est son église. Et quand nous regardons qu'il s'agit de son église, nous allons prier pour que la gloire de Jésus vienne dans son église. Et nous allons nous préserver de ces mauvaises actions que nous pouvons avoir parfois avec ce petit gouvernail qui manipule un grand bateau, comme dit l'épître de Jacques. L'onction nous donne et nous communique la vérité. Alléluia. Ça fait du bien d'être dans la vérité. Parce que nous n'avons pas à défendre nos doctrines. La vérité ne dépend pas de la manière avec laquelle nous déployons ou nous enseignons la doctrine. La vérité dépend de la personne à laquelle nous sommes attachés. C'est Jésus-Christ. Il est la vérité, le chemin et la vie. Alors bien sûr, la doctrine va être un moyen, un soutien à cette vérité. Mais nous devons savoir que nous pouvons avoir des différences doctrinales qui ne sont pas forcément des oppositions, mais qu'on devrait considérer comme des complémentarités, mais qui n'ont pas toutes exactement le même sens. Vous avez par exemple dans certaines églises baptistes, on ne croit pas à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. On dit le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit au moment de la conversion. Et nous savons que c'est une deuxième expérience. Moi, j'ai reçu le baptême de l'Esprit, je n'étais pas dans une église pentecôtiste, j'étais dans l'église réformée. Alors, je peux dire à tous ceux qui ont une telle doctrine, je leur dis, mais vous vous trompez. Moi, je n'étais pas dans une église évangélique quand le Seigneur m'a baptisé de l'Esprit. Mais l'expérience, je l'ai faite. Et elle a été différente de celle de ma conversion. Alors, bien sûr, dès ce moment-là, ils réfléchissent un petit peu quand même. Dieu soit béni. Troisièmement, lorsqu'il est parlé de la vérité, il y a une gloire dans la vérité. Et là, l'apôtre Jean nous amène sur un terrain absolument extraordinaire. C'est-à-dire celui qui a le Fils a le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Ouh ! La Trinité. Ou la triunité. Alors vous savez qu'il existe un mouvement qui s'appelle Jésus seul, qui, eux, ne voient que la personne de Jésus. Jésus est le Père et le Saint-Esprit en même temps. Mais ils se trompent. La Trinité, elle existe. Je vais vous faire une petite démonstration, rapidement. Votre propre personne, elle est c'est une composante de trois parties. L'esprit, l'âme, le corps. Moi qui ai passé par 38 opérations premier brûlure, je peux vous dire que j'aurais quand même bien aimé qu'on puisse séparer mon âme de mon corps pour avoir un peu moins de douleur. Mais la situation est ce qu'elle est. Et si on avait fait ça, je ne serais pas au milieu de vous, je serais mort. Alors, on se rend compte qu'il y a entre ces trois composantes une unité indestructible. On ne peut pas faire quoi que ce soit, ni les séparer. Les trois parties dont nous sommes composés sont parfaitement unies. Mais, dans le jardin d'Éden, si par exemple on faisait trois cercles, hein, l'un sous l'autre, le premier cercle, il aurait esprit, le deuxième âme, le troisième corps. Après le péché, il y a eu inversion de la situation. C'est le corps qui a pris la première place. L'âme est restée au centre et l'esprit a été rendu non fonctionnel, comme je l'ai dit hier soir. Et quand Jésus revient et rétablit la situation au travers de la conversion et de la nouvelle naissance, hop, il y a de nouveau la situation d'avant la chute. Esprit, âme, corps. Pourquoi l'âme reste toujours au milieu? C'est parce que l'âme, c'est notre personnalité, c'est nous. Et il n'y a aucun qui ait une âme semblable à l'autre. Nous avons tous une âme différente. Dans l'âme, il y a trois parties aussi importantes. Les pensées, la volonté, les sentiments. Pensées, volonté, sentiments. Et nous avons tous des caractéristiques particulières sur la façon, par exemple, ce qu'on appelle les émotions, touchant nos sentiments, comment on réagit par rapport à telle situation, etc. On a là, je n'ai pas le temps de m'étendre non plus sur ces trois points, mais donc notre âme, c'est notre personnalité, ce que nous sommes. Et puis, l'esprit, quand il reprend sa place, c'est lui qui va avoir influence sur l'âme et sur le corps. Or, après le péché, c'est le corps qui a passé tout en haut, c'est-à-dire le corps qui a commencé à influencer l'âme, et on est dans une situation équivalente aujourd'hui. Publicité et autres, tout est centré sur le corps. Et dans le sport, tout est centré sur le corps. Bon, c'est pas nouveau, hein, déjà du temps des Grecs. Et vous savez comment dans les sculptures grecques, le corps était considéré comme une partie extrêmement importante. Et comment on aimait mettre au corps toutes les beautés qu'on pouvait faire ressortir de celui-ci. Mais c'est le corps qui était central. Or, en Jésus-Christ, c'est plus le corps qui est central. Il est la troisième partie de notre être, parce que le corps n'héritera jamais de la vie éternelle. Il a été porteur du péché. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 15, « Ce qui est corruptible n'héritera point de l'incorruptibilité. » Et ce qui est mortel n'héritera pas de l'immortalité. Donc nous sommes au clair. Le corps, c'est la partie la moins importante. La plus importante, c'est l'esprit en nous, pour qu'il ait l'influence sur tout notre être. Si nous voulons gagner des batailles contre certains péchés, il faut honorer la présence de l'Esprit Saint en nous. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin. Si par l'Esprit, 1 Corinthiens 1, Romains chapitre 8, si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. C'est par l'esprit. Il faut lui laisser la place. Cette vérité de la Trinité est extrêmement importante. Et là, nous avons encore dans le chapitre 4, le Seigneur nous montre bien qu'il parle de l'esprit, donc la troisième personne de la Trinité. Il nous dit ceci qui est très important en relation avec la première partie que j'ai mentionnée, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. J'ai dû dire à des témoins de Jéhovah, parce qu'eux aussi sont anti-trinitaires, psaume 45 et le verset 8, où il est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il a dit, c'est qui? C'est deux seigneurs. Ah ben, je sais pas. J'ai dit, ben, c'est là que vous êtes contre la Trinité, parce que ce terme n'existe pas dans le Nouveau Testament. Mais c'est pas parce qu'il n'existe pas que la vérité n'existe pas. Alors, il y a le Père et le second, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean nous dit ici, celui qui a le Père a le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas plus le Père. Celui-ci est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Alors nous voyons où se situe l'Antichrist. Il y a un mouvement pentecôtiste que je n'arrive pas à comprendre. C'est la United Pentecostal Church, c'est-à-dire Église pentecôtiste unie. Ils emploient ce terme uni, non pas parce qu'ils seraient unis entre les différentes assemblées, mais parce qu'ils croient seulement à Jésus seul. Alors, je me demande comment ils peuvent prêcher le baptême du Saint-Esprit puisqu'ils croient à Jésus seul. Il y a une contradiction là. Et on se rend compte que l'homme n'est pas capable véritablement de défendre clairement la parole de Dieu. Nous avons un pasteur anti-trinitaire américain à Genève. Il m'a envoyé la défense de sa doctrine anti-trinitaire. Il n'y a aucun argument solide, aucun. C'est du travail de rien. Un enfant est capable de faire le travail qu'il a fait. Alors que la défense de la Trinité, elle est claire dans toutes les Écritures. On sait que c'est une vérité profonde. Pourquoi est-ce que l'onction du Saint-Esprit veut nous rappeler et nous révéler la Trinité dans toute sa gloire? C'est pour que nous ayons une révélation de la gloire de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions avec du rituel. Pour ceux qui étaient dans l'Église catholique, vous avez appris à vivre avec un certain ritualisme. Or, maintenant que nous sommes en Christ, bien nous apprenons à vivre avec la gloire de Christ, avec celui qui habite les cieux et qui nous amène une autorité qui ne passe pas au travers de l'homme. Enfin, oui, elle va passer au travers de l'homme, mais je veux dire qui n'est pas le fruit de l'homme, qui est l'action de Dieu parmi et au travers des hommes. C'est Dieu qui agit et qui manifeste son autorité. Il faut que nous puissions découvrir la gloire de la Trinité. Mais elle est indivisible. Je crois que je dois vous donner encore deux autres images pour vous aider à bien comprendre cette Trinité. Sur la terre, si nous voulons y vivre, il nous faut de la terre, de l'eau et des gaz, en l'occurrence l'oxygène. Si nous voulons une plante, il faut qu'il y ait de la terre, des racines, un tronc et des branches. Vous pouvez ainsi multiplier les exemples de la marque de la Trinité sur l'ensemble de la terre. Mais la meilleure image que je peux vous donner, c'est le soleil. Le soleil, il y a trois parties physiques qui le caractérisent. La lumière, la chaleur, l'énergie. Or, sur le plan de l'étude de l'une ou de l'autre de ces parties physiques, nous pouvons les étudier séparément, mais elles font partie du même soleil. Alors, il va toujours dégager sa lumière, sa chaleur, son énergie, elles viennent toutes du même soleil. On peut les étudier séparément, mais il y a une seule source. Et finalement, la Trinité, c'est ça. C'est qu'il y a le Père qui s'est manifesté au travers du Fils et au travers du Saint-Esprit. Dans les grandes lignes, dans les très grandes lignes, on peut dire Ancien Testament, révélation du Père. Évangile, révélation du Fils. À partir des actes des apôtres, révélation du Saint-Esprit. Mais évidemment, dans les grandes lignes, on ne peut pas en tirer une théologie absolue. Dieu soit béni. Nous avons affaire à un Seigneur qui se manifeste de manière extraordinaire. Et c'est pourquoi on a pu parler hier soir du Papa. Point suivant, au verset 25, parce que je ne veux pas quand même trop dépasser midi. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. L'onction de Dieu nous donne une espérance vivante. Lorsque nous réfléchissons avec notre système intellectuel, nous nous disons nous-mêmes, « Oh, mais je ne sais pas si je suis prêt pour l'éternité. Seigneur, il y a peut-être encore un certain nombre de pas qui ne sont pas accomplis. Et puis, je me rends compte que je ne suis pas parfait. Est-ce que tu vas me prendre quand tu reviendras ?» On peut avoir des doutes sur soi-même. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas forcément un danger et ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça serait mauvais si nous conservons ces doutes. Mais si ces doutes nous amènent à dire, qu'est-ce que dit la Bible ? Alors je reprends Jean 5, verset 24. Celui qui croit au Fils a la vie. Alléluia. C'est acquis. Et le Seigneur ne nous dit pas, il faut que tu réfléchisses à tout ça, que intellectuellement tu tiennes un raisonnement profond pour que tu puisses savoir si véritablement tu vas entrer dans la vie éternelle. Alléluia, le Seigneur ne nous a pas demandé de nous triturer les méninges. Ce à quoi il nous appelle, c'est de croire. Alléluia. Et il nous dit, si tu crois, dans Jean 11, au sujet de Lazare, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, nous croyons que le Seigneur nous a dit des paroles qui sont la vérité, qui demeurent, et des paroles qui déposent en nous une espérance vivante. Parce qu'après tout, on ne sait pas quand on va mourir. Personne ne peut nous le dire, Dieu n'a pas voulu nous le dire. Et on mourra quand Dieu l'a décidé, et non pas quand l'homme décide selon les principes de l'euthanasie, qui emploie un vocabulaire que je supporte très très mal. On veut mourir dignement. C'est pas ça, mourir dignement. En mourant par suicide volontaire. C'est pas ça, mourir dignement. Mourir dignement, c'est mourir à l'heure de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à un héritage. Alors, j'espère que vous n'avez pas été trompés comme un pasteur. Il vit en Suisse, mais c'est un ch'timi. Il reçoit une lettre comme quoi et il va recevoir un héritage d'$1 million. Mais pour ça, il fallait avancer environ 4 000 euros. Et il a marché dans la combine. S'il m'en avait parlé, on est pourtant assez proches, mais s'il m'en avait parlé, je lui aurais dit... Surtout, ne réponds pas. Parce que ça, c'est un coup méchant. Excusez-moi, mes frères et mes sœurs d'Afrique, mais ça vient du Nigeria. Et ce sont des bandes organisées qui encaissent de l'argent par le fait qu'ils demandent une certaine somme qui soit versée, avec la prétention qu'on pourrait obtenir un héritage, et en fait, il n'y a rien du tout. Eux, ils ont encaissé de l'argent et le reste... Il s'en moque complètement. Eh bien, il a perdu 5 000 euros dans cette affaire. C'était ses économies. Mensonge qui se trouve derrière ce qui peut obnubiler quelqu'un au point de vue financier. Non, notre espérance ne repose pas sur le matérialisme. Notre espérance repose sur notre Seigneur Jésus, sur les promesses qu'il nous a faites. Et par conséquent, si nous mourons demain, nous savons où nous allons. Amen. J'ai tellement aimé, parce que mon beau-père, donc le papa de mon épouse, il est décédé en 77. Et puis, Il avait eu à un moment donné une perte de mémoire, il n'était plus tout à fait avec nous, et on a prié, on a dit, mais Seigneur, il n'est pas prêt pour entrer dans la gloire, nous te demandons la guérison, il faut qu'on puisse encore lui parler, et, alléluia, le Seigneur a exaucé nos prières. Alors, un jour, j'ai dit, maintenant c'est le moment. Il avait 83 ans, à ce moment-là, et j'ai dit, maintenant je vais. Alors, j'entre dans la chambre où il était, dans son lit, et sans aucun préambule, il me dit, je sais pourquoi tu viens. Ah ouais? Qu'est-ce que tu penses? Ouais, t'as pas de souci à te faire, il me dit. Je sais que je vais mourir, mais je sais où je vais. Alléluia! J'ai dit, ben, je vais prier avec toi. Alors j'ai prié avec lui. Mais le Seigneur s'était révélé. Hein, gloire à Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est pour vous encourager dans vos prières, que vous sachiez que Dieu vous exauce, et que vous n'ayez pas l'impression qu'il ne vous exaucera jamais. Ça peut prendre du temps, c'est vrai, mais Dieu veut voir si nous sommes persévérants. Et nous tenons bon, jusqu'à ce que nous voyons la victoire se produire. Alléluia. Parce que l'onction nous donne une espérance. Celle que nos prières sont exaucées d'une part, et d'autre part concernant la vie éternelle. Et ça, c'est très précieux. Le point suivant, c'est, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que vous avez de la connaissance. Ah, ah. Dans les églises, lorsqu'il y a les études bibliques, mais aussi la prière, il n'y a en général pas grand monde. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Mais de manière générale, c'est comme ça. J'étais, pour vous citer un cas beaucoup plus lointain, en Sicile, nous y descendons assez fréquemment, eh bien, d'une église de 450 à 500 personnes présentes au culte, à la réunion de prière, il y avait 45 personnes. Et ça, c'est un cas typique. C'est en général le 10% de la participation au culte dimanche matin qui est présent à la réunion de prière ou à l'étude biblique. Parce que certains ont pris ce texte pour dire, comme j'ai l'onction, j'ai pas besoin d'être enseigné, c'est l'onction qui m'enseigne. Ah, c'est ce qu'on va voir si c'est aussi vrai que ça. Ou si ça va dans le sens que l'on pense. J'aimerais tout d'abord vous donner le sens du mot grec gnosis, le substantif gnosis qui veut dire connaissance en français. Et gnosis veut dire une connaissance avec une expérience. Si quelqu'un parle l'allemand, c'est dit Erfahrung, qui serait la meilleure traduction par l'allemand. Donc, quelque chose qu'on expérimente et qui fait que nous connaissons la personne dont on parle ou la révélation que Dieu nous transmet. Je disais à des étudiants en théologie, vous n'apprendrez jamais à connaître Dieu au travers de la théologie. Mais vous l'apprendrez à le connaître si vous lui demandez de se révéler. Parce que, il faut faire en français la distinction, elle n'est pas aussi claire que ça dans notre langue, entre le savoir et la connaissance. Le savoir est une accumulation intellectuelle d'un certain nombre d'éléments que je ne méprise pas du tout, c'est utile. L'ingénieur, le futur ingénieur, il est en train d'apprendre, le futur médecin et architecte, etc. Chacun est en train d'apprendre. Il accumule un certain nombre de connaissances, dit-on en français, parce qu'on fait souvent de ces deux mots des synonymes, mais ils ne sont pas du tout pareils. Le savoir, c'est une accumulation intellectuelle. La connaissance, c'est une accumulation d'expériences. Alors, vous avez tous remarqué, si quelqu'un est un frais sorti de l'école d'ingénieur, il va faire d'abord un stage avant de se lancer et puis de prendre autorité sur un certain nombre de personnes, parce qu'il a le savoir, mais il n'a pas la connaissance. Et il y a des ouvriers qui en savent plus que lui sur la manière avec laquelle on va traiter tel et tel produit ou telle et telle situation. Hein. Alors, il faut qu'on acquiert la connaissance. Un médecin, il acquiert un savoir extraordinaire, Mais il faudra un jour le mettre en pratique. Quand il doit faire sa première piqûre, il a les mêmes hésitations que les infirmières. Hein. Oh, où c'est que je vais la faire? Et puis je vais lui faire mal. Bon, c'est ainsi pour chaque profession, pour tout ce que nous vivons ici-bas. Hein. D'abord, il y a le savoir. Et ensuite, il y a la connaissance qui vient. Mais avec Dieu, jamais nous allons vivre avec du savoir, mais toujours avec la connaissance. C'est-à-dire parce que nous expérimentons notre Seigneur. Nous savons qui il est. Dieu veut révéler sa nature à chacun. Alors, hier soir, on a parlé du papa, mais vous avez tous les attributs qui sont donnés à Dieu dans la Bible. Il est amour, il est bon, il est grand, il est glorieux, il est merveilleux. C'est le bon berger, c'est la porte des brebis. Hein. De Jésus, dans le Nouveau Testament, il y en a plus de 70 qui sont mentionnés d'attributs à notre à la personne de Jésus. Eh bien, le Seigneur veut que nous puissions acquérir cette connaissance-là. Mais, j'aimerais insister là-dessus, il y a des connaissances dont nous avons besoin, dont la Bible ne parle pas. Alors, je vais vous citer un exemple. C'est pourquoi nous avons l'onction. J'admets que l'un d'entre vous se trouve au chômage. Il fait un certain nombre de demandes et voici qu'il y a une réponse pour aller travailler à Troyes. Alors, la question se pose, il y a les kilomètres, est-ce que je dois habiter à Troyes ou bien est-ce que ce travail, je l'aurai pour un certain temps? Par conséquent, c'est mieux que je fasse les voyages ou éventuellement que je prenne une chambre sur place pour demeurer, revenir le week-end auprès de ma famille. Donc, il y a un certain nombre de questions que chacun se pose. Et l'onction de l'esprit va nous donner la connaissance de ce que nous avons à faire. C'est là où la Bible ne répond pas. Dieu l'a pas voulu parce qu'il veut que nous soyons confrontés à la recherche de sa face. Alors, Dieu va peut-être te dire, non, ne prends pas un appartement du côté de Troyes, parce que ton travail, tu vas pouvoir le pratiquer pendant environ une année, et après, tu te retrouveras de nouveau au chômage. Hein, ou l'Esprit de Dieu nous révélerait d'avance ce qui va se passer. Donc, on sait ce qu'on doit faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre que l'onction nous donne la connaissance. Parce que certains ont cru qu'au travers de l'onction, on allait devenir soi-même de petits théologiens et qui connaissant bien toutes les Écritures, les pensées de Dieu, etc., que par conséquent, l'étude biblique qui se fait dans le cadre de l'Église, on n'a même pas besoin d'y participer. Moi, je vous dis, frère, ce n'est pas du tout le sens qui nous est mentionné ici. Ce n'est pas le verbe savoir dont il est parlé. C'est le verbe gignosco qui veut dire connaître en français. Alors, Dieu veut nous faire expérimenter les choses dont nous avons le plus besoin. Voilà, je ne vais pas dépasser de beaucoup midi. J'ai plus qu'une chose encore à vous dire. C'est le dernier verset que nous avons lu. Comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Donc l'onction de l'esprit nous est donnée dans le but de connaître la volonté de Dieu. Vous avez remarqué combien de fois Jésus dit ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 4 à la Samaritaine. Les disciples disent, Seigneur, mais tu n'as rien mangé. Et Jésus répond, ma nourriture, c'est le faire la volonté de mon Père. Alléluia. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. L'onction va nous donner la grâce de pouvoir comprendre quelle est la volonté du Père. Alors, j'aimerais ici insister, parce que nous, les latins, on a un grand défaut, c'est que nous sommes des individualistes. Et dans l'Église du Seigneur, Dieu veut nous apprendre à être communautaires, à vivre dans le cadre communautaire. Donc, si nous avons une question qui se pose, Seigneur, j'ai ton onction, mais je n'ai pas reçu la connaissance comment je dois agir dans telle ou telle circonstance, puisque la Bible ne nous dit rien, par exemple, sur un autre problème que cela. Eh bien, on en parle au pasteur, on en parle dans le cadre de la communauté, on prie pour ça. Et le Seigneur va révéler quelle est sa volonté. C'est dans ce sens-là que l'onction va nous donner l'enseignement dont nous avons besoin. Mais ça ne veut pas dire que nous pourrions nous priver tout à coup de faire des études. Je vais vous citer un cas que j'ai eu à Lausanne en 67, où il y a un groupe qui s'est formé en provenance de plusieurs églises, ils étaient environ une quinzaine, et ils avaient reçu les dons de l'Esprit, et le responsable a dit, maintenant nous n'avons même plus besoin de lire la Bible, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et moi je lui ai dit à l'époque, je te donne peu d'années avant que cette affaire soit complètement anéantie, parce que vous allez vous baser sur la prophétie au lieu de vous baser sur l'Écriture. Eh bien, ça n'a pas pris plus de 3 ans, à 3 ans et demi. Et cette communauté n'existe plus depuis ce moment-là. Parce qu'ils voulaient se baser sur la révélation directe plutôt que sur la révélation donnée. Or, ne faisons pas cette erreur-là. Et les gens qui vivent à coup de prophétie ne sont pas des gens solides dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recevoir de prophétie. Mais ça veut dire que quand on reçoit une prophétie, il faut savoir la prendre en disant, Seigneur, merci pour ce qui a été dit, mais je me soumets à toi. Et je te demande de diriger ma vie de manière précise. Voilà. Je tire maintenant ma conclusion. L'onction donc du Saint-Esprit va nous donner cet ensemble que nous avons partagé ce matin et nous permettre d'être des chrétiens engagés, des chrétiens vivants, des chrétiens toujours plus heureux d'être en communion avec notre Seigneur qui est dans les cieux. Parce que l'onction que nous avons reçue nous met en communion avec lui. C'est cela qui va faire de nous des gens heureux. Et je comprends le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile, il a écrit ce livre, Les gens les plus heureux sur terre. Eh bien, c'est vrai. Quand Christ est au centre, quand l'onction de l'Esprit nous conduit au pied de Jésus à chercher la volonté de Dieu et à rechercher ce que Dieu veut, nous sommes des gens heureux. Dans un monde qui n'est pas très heureux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, nous on l'a fait, mon épouse et moi, on a une place à Lausanne qui s'appelle Saint-François, où presque tout le monde passe pour aller à leur travail, parce que c'est une colline. Eh bien, on a regardé la tête des gens. Ben, il n'y en avait pas beaucoup qui sourièrent. On s'est dit, eh bien Seigneur, alléluia, tu as mis le sourire de Jésus-Christ en nous. Alors, frères et sœurs, vous tenez compte de ce que je viens de dire, quand vous passez dans les rues à Reims, ayez des beaux sourires, que les gens puissent dire, ah dis donc, ça c'est un personnage heureux. Cette femme, elle est heureuse. Et on a des occasions de témoigner aux autres. On m'a posé la question dans un supermarché. Et c'est la caissière qui a dit, j'arrive pas à comprendre, monsieur, avec vous, tout ce qui vous est arrivé, comment vous pouvez avoir un air aussi heureux. Alors j'ai été très heureux de pouvoir lui répondre, c'est Jésus-Christ, et qui est ma joie, qui est ma force, comme la musique de Beethoven, hein. Oui, c'est juste, c'est Beethoven. Non, Bach. Jésus, ma joie. Jésus, ma joie. Amen. Oh, frères et sœurs, que la joie de Christ soit en vous. Que la joie de Christ vous accompagne. Que l'onction de l'Esprit soit sur vous. Prions au Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir remplis de l'Esprit Saint et de nous avoir donné l'onction. Oh, nous voulons nous réjouir parce que cette onction, nous aimerions la laisser s'exprimer. Nous aimerions la laisser avec tout ce qu'elle peut apporter à l'intérieur de nous-mêmes. Toutes les grâces qui peuvent se manifester au travers de nous-mêmes par cette onction. Seigneur, je te la demande sur les uns et sur les autres. Sur ceux qui souffrent aussi bien que sur ceux qui sont heureux. Que tous soient amenés à la joie. Et je te prie, Seigneur, que dans les familles où l'on prie pour la conversion de quelqu'un, tu les exauces bientôt. et qu'il y ainsi des fruits à la gloire de ton nom. Permets, Seigneur, pour beaucoup de chrétiens, que leur sourire, leur joie intérieure, accomplie en eux par le Saint-Esprit, par cette onction, puisse produire du fruit et permettre à d'autres de poser des questions. Seigneur Jésus, gloire à toi. Je te demande de les bénir et de les accompagner. Merci pour la grâce que tu fais à chacun, au nom de Jésus, le roi de gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon cher pasteur.